Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Le grand oral des grandes gueules.
Grand oral des GG avec Philippe Ballard, qui est ex-présentateur et journaliste, tête de liste Rassemblement National aux élections régionales à Paris. Bonjour Philippe.
Bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs.
C'est vrai Philippe que lorsque vous avez annoncé que vous alliez vous engager en politique au sein du Rassemblement National, le patron d'LCI est tombé de la chaise ?
Ah, c'est ma vie d'avant. Voilà, j'ai tourné la page. J'ai pris pour habitude de ne pas m'exprimer sur cette vie d'avant. On a un combat politique à mener. Les régionales, et puis évidemment 2022, la présidentielle et les législatives qui suivront pour porter Marine Le Pen à l'Élysée.
Vous ne voulez pas parler de votre vie d'avant, mais ce qui est intéressant, c'est
parce qu'il y a de la confidentialité en plus.
Bien sûr, mais quand un journaliste décide de s'engager politiquement, vous n'êtes pas le premier. Quand c'est la gauche, ça ne surprend personne.
Merci de souligner.
Quand c'est le Rassemblement National, ça fait la une de tous les journaux. C'est amusant.
Ça m'évite de le faire. Vous avez tout résumé. Effectivement, j'aurais décidé d'être... j'aurais pas décidé moi-même. D'être tête de liste Europe Écologie Les Verts, PS, LAREM, que sais-je. Je pense que ça aurait soulevé moins de débats. Mais oui, RN, ça marque encore les esprits. Bien que, là, moi, il y a un petit indicateur. J'ai reçu, franchement, des centaines de messages d'encouragement. Bravo, t'es courageux.
Et puis de la part de
nos confrères. Alors, j'allais y venir pour être plus précis, de la part de confrères, là, sur mon portable perso. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Et alors, il me disait, ouais, on était content de travailler avec toi. Bon, ok, d'accord, très bien. Mais on est d'accord sur le constat. Tu fais, bon, par contre, on va pas voter pour toi parce qu'on n'est pas encore d'accord sur les solutions. Mais ça veut dire qu'on a quand même fait une bonne part du chemin. Il y a 10, 15 ans, je suis pas sûr qu'on m'aurait dit, le Rassemblement National fait le bon constat.
Mais qu'est-ce même que vous avez fait le chemin, la dédiabolisation de l'extrême droite?
C'est pas l'extrême droite, c'est un parti patriote. C'est très clair, ça fait
quelques... Pour vous, c'est pas l'extrême droite?
Non. Ça fait quelques dizaines d'années, je suis pas le père drôle de l'année, que je suis journaliste, j'ai vu la droite, j'ai vu la gauche, j'ai vu le centre, puis le macronisme au pouvoir. Et moi, j'ai assisté à un déclin de mon pays, sous les coups de butoir de cette mondialisation qu'on nous promettait heureuse, et qui en fait est un cauchemar pour des millions de Françaises, de Français, chefs d'entreprise comme salariés. J'ai vu cette vague migratoire, année après année, plus de 400 000 personnes qui arrivent dans notre pays déferlé. Et puis, la sécurité, je pense qu'on va en reparler, mais enfin là, ai-je besoin de développer? On est en sécurité nulle part en ce moment dans notre pays.
C'est ce qui permet aussi le développement économique.
Oui, des petits Chinois, oui. Mais moi, je suis français. Le développement des Chinoises et des Chinois, je suis content pour eux. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans mon pays, la classe moyenne, elle a pris ça de plein fouet.
Je crois pas.
Et elle a du mal.
Il y a beaucoup de secteurs. Mais la mondialisation a permis à beaucoup de secteurs en France de se développer énormément. L'aéronautique, le luxe, l'automobile.
Il y en a 3 ou 4. Hein. Parce que vous dites l'automobile. Combien d'usines ont été décentralisées? Soit en Europe, on exporte des voitures qui sont fabriquées à l'étranger. Franchement, je vois pas bien l'intérêt.
Vous dites ça sur le ton de l'évidence. Non, pardon, la mondialisation n'est pas un phénomène qui a été exclusivement nuisible, etc. Il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, je pense qu'il y a plutôt plus de bons côtés que de mauvais côtés. C'est pas avec le protectionnisme à l'échelle hexagonale qu'on aurait pu faire quoi que ce soit.
Non, mais je suis pour
le problème est beaucoup plus vaste.
Je suis pour l'économie de marché et je suis pour la concurrence, mais saine et loyale. Quand on a face à nous, quand nos chefs d'entreprise, nos salariés, ont des produits fabriqués dans des pays où on a délocalisé, mais qui n'ont pas les mêmes règles environnementales, fiscales, sociales, c'est de la concurrence déloyale.
Et
l'Europe qui était, je vais vous le dire, et l'Europe qui était censée nous protéger, ne nous a absolument pas protégés. Et nous, on a tout fait pour le consommateur. C'est un peu la doxa de l'Union européenne. Donc on a tout fait pour protéger le consommateur au détriment de nos entreprises et de nos emplois. Je ne sais pas, quand c'est une concurrence déloyale, on essaye de rétablir un petit peu de loyauté. Pourquoi est-ce que chirurgicalement, on va pas ces produits qui, ouais, n'ont, qui sont produits avec des règles qui n'ont rien à voir avec celles qui sont produites en France, les taxer un petit peu, ça serait pas complètement idiot.
Produire beaucoup de choses pas chères.
Voilà, on vend des produits pas chers à des chômeurs. C'est un beau modèle économique, ça. Fallait quand même y penser.
C'est pas vrai. Ça permet de vendre beaucoup de choses pas chères qui sont aussi tout à fait utiles à la population française et notamment ceux qui ont le moins de moyens.
Voilà. Mais c'est pas un modèle économique et social, franchement. Non mais franchement,
j'en terminerai par ce sujet. Votre
logique, parce que les super tankers qui traversent les océans pour nous amener des objets.
Si vous voulez, quand on prolonge les courbes de cette rhétorique qu'on entend en effet depuis longtemps dans la bouche du Front National, qui serait de relocaliser, etc., tous les emplois. C'est une logique d'illusion. C'est pas vrai que demain, on va fabriquer des télés, des machines à laver, des vêtements.
Vous savez qu'on est pour le localisme.
Ça fera exploser les prix de ces produits-là.
On est pour le localisme. C'est-à-dire, on va produire au plus près de nos besoins. C'est pas l'Albanie des années 70 que je suis en train de vous décrire. C'est ramener un petit peu de bon sens, les circuits courts, produire au plus près de la consommation. Plutôt que d'avoir des super temps. Bah oui, mais ils sont venus. Moi, j'observe la vie politique et économique. Marine Le Pen l'a dit, hein, il pourrait faire un très bon ministre dans un gouvernement une fois Marine Le Pen élue à l'Élysée. Oui, tout à fait. Oui. Et d'autres, quand j'entends Michel Barnier hier nous dit pour un moratoire sur l'immigration, Michel Barnier, c'est quand même. C'est le centre mou, pardon. Hein, c'est peu péjoratif ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Donc vous dites qu'il réclame un moratoire sur l'immigration.
Tout le monde vient vers les idées défendues par Rassemblement National.
Absolument, oui.
Alors pourquoi il y a encore un doute sur la capacité à voir Marine Le Pen diriger ce pays ?
Alors, deux choses. Vous connaissez Ramsi, c'est marxiste d'ailleurs, philosophe italien du 20e, qui dit avant de gagner la bataille politique, il faut gagner la bataille culturelle. Je pense que la bataille culturelle, nous l'avons gagnée. Alors après, le deuxième point, il y a une campagne d'un an qui va s'amorcer. On affine notre programme économique qui va être passé, mais alors, à la moulinette, au microscope, vous allez regarder ça, et tant mieux de près, toutes les propositions économiques et sociales, environnementales, etc., etc., vont être décrites au fil des mois. Et vous verrez que Marine Le Pen a toutes les capacités pour réaliser, pour rassembler et apaiser le pays.
Vous parlez de programme économique. Du coup, j'ai regardé un petit peu les propositions que vous faites pour l'Île-de-France. J'ai fait un budget. Et si jamais on appliquait toutes les mesures que vous donniez, on doublerait, voire triplerait le budget de la sécurité. Du coup, ma question, c'est pour compenser ce manque de financement, vous allez enlever du budget dans les écoles, les hôpitaux ou dans la culture ?
Non, attendez, parce qu'il n'y a pas tout. Compétences de la région, c'est principalement le transport, ce sont les lycées, la sécurité qui n'est pas une compétence directe, mais effectivement une de nos propositions fortes, celle formulée par Jordan Bardella, c'est de mettre deux agents armés dans les gares, que ce soit RATP ou le réseau transilien. Il y a déjà des mesures, on donne de l'argent à la SUGE ou à RATP Sécurité qui assurent, ce sont déjà des agents armés d'ailleurs, qui assurent la sécurité, même si sondage, étude qui a été faite par le Conseil régional, 41% des personnes interrogées déclarent se sentir en insécurité dans les transports en commun. Donc on est en train de le chiffrer, Jordan Bardella va le présenter, ce chiffrage, ainsi que toutes les autres mesures dans les jours qui viennent.
J'ai le chiffre, c'est près de 50% du budget sécurité. Ça veut dire que
alors, attendez, comment vous avez fait? Parce que deux agents, donc a priori, pour être là de 6h à minuit, je fais très simple, il faut quand même trois équipes, il faut compter les vacances, il faut compter les malades. Vous avez incorporé tout ça dans votre calcul?
Je l'ai fait au plus bas pour être sympa avec vous.
Et oui, comment? Parce que je voudrais le savoir, quand même.
J'ai uniquement compté les salaires. J'ai compté combien il fallait payer ces gens, mais pas du tout tous les services RH, tous les congés payés et tout ça. Mais j'ai aussi
regardé,
Vous proposez de mettre des caméras, beaucoup plus de caméras de vidéosurveillance. Ça coûte, vous savez combien ça coûte d'installer 10 caméras?
Il faudra augmenter les impôts, prendre des taxes, quelque part de l'argent quelque part.
Ce que j'essaie de démontrer, c'est que vous proposez, par exemple, de mettre des caméras partout. Vous proposez de mettre des agents dans des gares. Ce qui est très, ok, pas de problème, ça aide les gens à sentir en sécurité. Sauf que c'est déjà tellement bon cher à appliquer, à mettre en place, que du coup, vous allez devoir prendre dans
toutes les comme dans toutes les communes qui sont gérées par le Rassemblement National, on fera des économies par ailleurs. Je pense par exemple au coût de l'immigration, parce qu'il y a une part qui est financée par le Conseil régional. Il y a d'économies à faire sur ces secteurs. Les associations culturelles, il faudra peut-être les peigner un petit peu, regarder ça d'un peu plus près. Il y a des économies à faire. Oui.
Donc il y aura des économies d'échelle si jamais Jordan Bardella gagne la région.
Jordan Bardella va vous aurez les idées claires. Parce que là, je doute un peu que ça n'a pas été fait sur un coin de table un petit
Barbara
peu.
Barbara Lefebvre.
J'étais sympa avec vous.
D'accord. Précisément, en région Île-de-France, puisque c'est, vous vous présentez en région Île-de-France, aujourd'hui, Valérie Pécresse est assez haut dans les sondages, ce qui lui permet d'ailleurs de ne pas avoir, elle, à aller picorer quelques ralliements à La République En Marche, mais. Si elle en avait eu besoin, je pense qu'elle aurait sans doute pas hésité.
Des fois, dit, je me demande ce qui me sépare d'une partie du programme de M. Saint-Martin.
Au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on sait qu'elle aurait bien aimé rentrer dans le gouvernement. Donc bon, néanmoins, là, aujourd'hui, elle n'a pas besoin des voix de l'AREM pour gagner. Quel est, vous, votre objectif? Est-ce que votre objectif, c'est d'être numéro 2 au moins à l'arrivée, d'être évidemment au deuxième tour? Mais quel est l'objectif que se fixe la liste Bardella par rapport à Pécresse qui va sans doute gagner la région?
Si je vous dis, c'est de gagner la région. Je vais pas vous étonner.
Oui, je me doute. Vous avez
après, on va regarder de plus près.
Viser haut, mais quand même. Ah oui, réalité.
On va regarder quand même la dynamique. Vous avez regardé les derniers sondages. La dynamique, elle est pour la liste de Jordan Bardella. On a commencé, je crois que c'était à 12. On est passé à 14. Là, on est à 17, 19 même au premier tour, et on arrive à 21% au deuxième tour. Voilà. Valérie Pécresse est à 33. Donc le delta se resserre. Il nous reste quelques jours de campagne. On va
pour le premier tour.
On va tout donner.
Vous savez quand même que les voix, sans doute, de l'AREM iront se reporter sur Valérie Pécresse.
Si tant est que le candidat de l'AREM se maintienne. Alors, il y a deux cas de figure. Soit il fait plus de 10% et il peut se maintenir. Soit il y a fusion. Au-delà de 5%, on peut fusionner. Là, je vais pas lire la boule de cristal et nous, on regarde déjà ce que nous, on fait, notre programme et notre campagne.
Au-delà de l'Île-de-France, aujourd'hui, le match, c'est entre Macron et Le Pen. Mm-hmm. Ce qu'on a vu ce week-end, Dupont-Moretti, Marine Le Pen, vous en pensez quoi?
Moi, ça m'inquiète.
Qu'est-ce que vous inquiète?
Ça m'inquiète, monsieur Dupont-Moretti. Déjà, s'adresser à une femme, comme il l'a fait. Enfin, franchement, moi, ça m'interroge. Après, il est ministre. Enfin, quand on voit l'état de la justice en France, 80 000 peines, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais j'ai révisé avant, je sais que je ne vais pas dire de bêtises, 80 000 peines de prison, alors, depuis des années, prononcées, non exécutées. Vous vous rendez compte le signal, puisque vous êtes avocat, envoyé pour la personne qui a été victime, son agresseur est condamné, mais allez, hop, il reste dehors. Et puis, pour la personne qui commet le délit, dans certains cas, le crime.
Ça dépend,
lui, il reste
de
dehors.
Il y a beaucoup de peines qui sont assorties d'un mandat de dépôt.
Oui, d'accord. Donc, 80 000 qui sont prononcées non exécutées.
C'est quelque chose qui.
Ils sont même jugés en leur absence.
Il faut aller. Mais non. Mais comment ça? La plupart, ils sont même jugés en leur
absence. Bien sûr. Les peines non prononcées qui ne sont pas exécutées sont précisément celles qui sont prononcées en l'absence du l'intéressé.
Je vois ça tous les jours. Vous allez en correctionnel, en comparaison. Immédiate, vous avez à peu près deux tiers des sanctions prononcées qui sont assorties, ou une moitié des sanctions assorties d'un mandat de dépôt. Et quand les gens sont jugés en leur absence, ils sont toujours rattrapés par la patrouille. C'est-à-dire que s'ils ont un jugement au-dessus de la tête,
permettez-moi de
à
douter.
Leur interpellation suivante, ils exécutent leur peine.
Oui, mais c'est comme les peines de prison avec sursis.
Je sais interpeller
que Charles finisse.
Monsieur Ballard est tout à fait sympathique. Il présente bien, etc. On a envie de lui faire confiance. Et donc vous voyez ce que je veux dire. Et donc on est dans la dédiabolisation du Rassemblement national. Et moi, je continue de penser que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Je pense qu'elle est entourée de gens d'extrême droite. Et je pense qu'elle pourrait prendrait pour une large part des mesures d'extrême droite.
Mais lesquelles, par exemple?
Je sais pas, il y a plein d'ambiguïtés au Rassemblement national sur la peine de mort. Il y a plein de gens qui sont ambigus.
C'est pas une proposition que je reprends à mon compte, dans le programme du Rassemblement national, cette peine de mort. Mais il me semble me souvenir qu'il y a 15 jours, il y a un mois, un sondage est sorti montrant que 51% des Français étaient favorables au rétablissement de la peine de mort certains. Non mais 51% des Français.
C'est pas forcément
une proposition que l'on reprend à notre compte. Moi, ce que je préférais, c'est
vous
que.
Vous êtes favorable, vous ou pas?
C'est que.
Vous, à titre personnel.
Alors, pour certains crimes particulièrement odieux, pour certains crimes particulièrement odieux, quand on touche à des enfants, après des actes de barbarie.
Donc, le retour de la peine de mort.
À titre personnel, mais je me plierai à la discipline du parti.
Oui, c'est à titre personnel, mais enfin, vous vous citez un sondage, vous donnez votre opinion. Donc en fait, en réalité, c'est un parti qui est porteur de régression et sans doute d'une régression terrible. Et moi, je trouve que Emmanuel Macron joue avec le feu en organisant tout pour avoir comme seul adversaire Marine Le Pen. Je pense qu'il joue avec le feu parce qu'en effet, il fait courir le risque insensé au pays de l'avoir élu un jour et ah, avec
Français,
elle.
C'est pas Macron qui vote Marine Le Pen, c'est les Français.
Non, oui. Mais tu sais très bien qu'il organise tout pour ça. Mais il organise tout pour ça.
C'est quand même les Français qui
organisent. Oui.
Marine Le Pen est arrivée au second tour.
Il dynamite la droite, il dynamite la gauche.
Il fait dit
qu'il est seul ressort
face à Marine Le Pen.
Depuis 88, ça c'est
des éléments de langage qu'on entend.
Mais non, mais c'est une réalité. Il fait tout pour ça. C'est une stratégie. C'était dans Le Monde ce week-end. C'est une stratégie.
C'était dans Le Monde.
Mais ses propres conseillers le disent. Ses propres conseillers le disent.
Non, mais attendez. C'est deux, ce sont deux mondes en fait qui s'affrontent. Il y a là le monde de cette mondialisation heureuse du libre-échange, du multiculturalisme incarné par Emmanuel Macron, et puis l'autre versant, c'est-à-dire le patriotisme économique, cette France qu'on chérit, qu'on porte dans nos corps. Ah bah on peut douter, je sais pas, quand il veut déconstruire l'histoire de France, moi je m'interroge quand
moi
même.
Moi je suis libéral et patriote à la fois, cher monsieur. Je suis favorable à la mondialisation, je suis quand même patriote, j'ai aucune leçon
à faire. Le grand écart des fois, on se fait des claquages.
Je suis pas sûr que par exemple, quand on défend quelque chose d'aussi régressif que le retour... Enfin, l'abolition de la peine de mort, c'est un des rares trucs qu'on peut mettre au crédit de François Mitterrand. C'est quand même un progrès immense d'abolir la peine de mort dans un pays. Être encore ambigu là-dessus, et vous exprimez à titre personnel...
Mais oui, je le redis, à titre personnel.
Pardon, mais c'est une régression. Alors, terrible.
La tribune des militaires, la deuxième tribune des militaires qui est publiée par Valeurs Actuelles. Vous en pensez quoi? Des militaires qui se disent en activité, de jeunes militaires.
Qui font le constat que le Rassemblement National fait depuis des années. Enfin voilà, tout mais simplement comme la première.
Est-ce que c'est orchestré par Rassemblement National?
Ah non, pas du tout.
Non.
Ah non, alors là, c'est pas titre personnel que je m'exprime. Non.
C'est spontané.
Il y a un sentiment, enfin on le voit, de ras-le-bol qui monte dans le pays. Enfin voilà, les forces de l'ordre qui sont en première ligne, les pompiers. Enfin, je disais quand même ce qui s'est passé. On a beaucoup parlé évidemment d'Avignon, de Fréjus dans l'Essonne, mais dans la banlieue lyonnaise. Mais ça a été terrible ce week-end. Et ce sont les pompiers à deux reprises qui ont été attaqués au mortier. Alors on prend soin de dire artisanal parce que évidemment ça fait un peu moins peur, d'accord. Ils portaient secours à des personnes. Ils ont été attaqués au mortier. Les pompiers. Ben voilà, donc il y a un sentiment de ras-le-bol et de la population.
Et vous proposez de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que Fréjus, c'est une ville dont le maire est Rassemblement National.
J'écoutais David Rachine qui disait, moi, il y a quelqu'un, enfin j'en connais un, il a été topé avec 10 kilos de cocaïne sur lui. 48 heures après, il était dehors. Voilà.
Il est avec un bracelet électronique chez lui.
Oui, voilà. Absolument, on a entendu le même son. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Ça veut dire que l'enquête est en cours.
Oui, non, mais attendez. La culture de l'excuse, il y a un moment. Ben non, c'est pas n'importe quoi. C'est la réalité. On est topé avec 10 kilos de cannabis sur soi. On a un bracelet électronique et on regarde, on joue au jeu vidéo sous mandat de dépôt pour moins de ça sur sa télé, ça. Mais vous comprenez pas que les gens en ont assez de ça? C'est juste, il y a un moment, on en a assez. Et il y en a d'autres qui passent le pas et qui s'engagent en politique.
Dans 9 cas sur 10, les gens, dans 9 cas sur 10, quelqu'un qui est interpellé avec cette quantité part en détention provisoire. Il y a des critères légaux pour la détention provisoire.
Pourquoi il a un bracelet, là?
Il y a des critères légaux, il y a un certain nombre de critères, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale. J'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à aller regarder, qui s'articule avec l'article 138 du Code de procédure pénale. Et quand vous pouvez présenter un certain nombre de garanties, à savoir que la justice peut s'assurer de votre maintien à sa disposition avec notamment un bracelet électronique, parfois, vous n'allez pas en taule. Pardon.
D'accord, mais pardon, ça, vous êtes un homme de loi. Alors, vous connaissez très bien la procédure, le
côté. Pour tous et pour non, mais parce qu'on a
voté
la taule pour tous avec Barbara et de l'autre, la peine de mort avec monsieur le candidat du Rassemblement National. Pardon de ne pas vouloir vivre dans cette société irrespirable que vous appelez de
encore
vos
voeux. Encore une fois, c'est un petit personnel. Mais comprenez quand même.
Je tiens à ce qu'on respecte la loi, qu'on ne mette pas tout le monde en prison, qu'on soit un état de droit, que j'ai des avocats.
Vous l'avez dit, on ne met pas tout le monde en prison, mais il y a des gens. Je pense qu'ils devraient se trouver en prison et qui ne sont pas en prison. Bah, et ça pose quand même un vrai problème pour la société.
Mais en fait, c'est
le fameux vivre ensemble. Je sais pas ce que vous en faites, le fameux slogan du vivre ensemble.
Les gens en ont marre, mais.
Bah oui, non. Mais oui, mais vous le sentez quand même dans l'opinion publique.
Je le sens et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà vécu dans un de ces quartiers que vous critiquez beaucoup. Non, sincèrement, c'est une vraie question.
Alors, finissez, je vais vous répondre.
Non, mais non, finissez-vous. Ouais,
oui. Alors, j'ai été élu.
Parce qu'il a un truc dans sa bête.
J'ai été élu dans une ville de cette banlieue que vous décrivez. Ouais. 20 000 habitants dans le Val-de-Marne.
Ok, c'est quelle ville?
Le Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, 20 000 habitants.
D'accord.
Et j'ai fait plusieurs mandats. Je vais vous raconter une scène qui m'a profondément marqué. J'ai plus appris d'ailleurs en étant élu local qu'en étant journaliste. C'était en juillet 1998, en pleine Coupe du Monde de foot. On suivait des jeunes dans les missions locales. Ce sont les jeunes qui sortent du système éducatif, sans diplôme, sans qualification.
Pas
on essaye de
ouais,
enfin, en partie. On essaye de leur, de leur remettre le pied à l'étrier. Ils viennent me voir. On les voyait jamais. Hein. Qu'est-ce que fait la ville pour nos vacances? Donc là, je commence soft. Je leur dis la phrase de Kennedy. Avant de vous demander ce que les États-Unis peuvent faire pour toi, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. J'arrange ça à la sauce locale. Bon, aucune réponse. Je leur dis quand même, moi, je suis pour la solidarité, pas la cistana. Venez quand même à tous ces ateliers. On essaye de vous remettre le pied à l'étrier. Toujours pas de réponse. Puis là, je sors un peu de mon couloir et je leur dis, bon, écoutez, essayez aussi, je vous donne un conseil. Ils étaient connus pour des gestes, hein, civilité, enfin bon, des petits trafics et autres, de vous intégrer. Je parle même pas d'assimilation. Et là, ils me disent, bon, non. Mais pourquoi vous voulez pas vous intégrer? Enfin, c'est quand même, c'est grave ce que vous dites. Et là, ils me disent, et ça m'a marqué. Non, mais ça m'a marqué. Ils me disent parce qu'on veut pas de votre société. Et je les ai laissés parler parce que c'était très intéressant. C'était quasiment anthropologique. Mais parce que votre société, elle nous plaît pas, elle nous convient pas. Il y a plus de solidarité. Moi, je m'en rappelle de ce mot. Vous avez plus de solidarité, vous pensez qu'à consommer. Ils m'avaient dit, vous pouvez divorcer aussi. Et ils égrenaient tout ça. Et en fait, ils étaient nés en France. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient recréer cette société qu'eux n'avaient pas connue, mais que leurs parents, leurs grands-parents avaient connu en Afrique subsaharienne, au Maghreb. Mais c'est pas possible.
Mais oui,
on peut pas.
C'est fini, on verra ce qui se passe aux élections régionales. Merci Philippe Ballard.
Merci à vous.
D'être passé par les GG, par les grandes gueules.